Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous permet d'être là ce matin. Chaque jour est un jour de grâce et nous devons le vivre comme cela. Durant ces premiers jours de l'année, nous avons eu quelques méditations. Aussi à l'école du dimanche, ils ont commencé avec le psaume 1 pour faire le lien avec nous les adultes et ce que les enfants font de l'autre côté, qui est aussi un culte à la gloire de Dieu. Ils ont été encouragés à penser à cette nouvelle année avec le psaume numéro 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Amen. Et les monitrices avaient encouragé les parents à relire ce psaume avec les enfants à la maison. Et j'aimerais vraiment être reconnaissant à Dieu qui nous donne ce privilège, non seulement d'avoir sa parole entre les mains, mais encore plus d'avoir l'opportunité d'être ensemble, enseigner, méditer, lire la parole de Dieu et les enfants aussi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et les conséquences de cet engagement, c'est qu'il donne son fruit en sa saison. Il est comme ce palmier, cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui peut, quelles que soient les saisons, être alimenté, nourri. Que Dieu nous aide, que nous puissions, nous aussi, dans cette année, rester, en tout cas pour ceux qui ont cette habitude, plantés près de ce courant d'eau. Jésus dit que je suis la source de la vie et c'est de lui que jaillit l'eau pure, l'eau de la vie éternelle. Nous avons aussi médité ensemble, il y a quelques dimanches, le psaume 34. Et les chants de ce matin, et les louanges de ce matin sont dans cette optique. Je louerai l'Éternel tous les jours de ma vie. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et le psalmiste pouvait dire, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Et il le dit dans un moment où sa vie n'est pas au beau fixe, mais où il a vu quand même dans ces moments-là la grâce et l'intervention de Dieu. Et il prend tout le peuple de Dieu à témoin. Il veut témoigner que son Dieu, le Dieu du ciel, l'Éternel, celui qui est le créateur de toutes choses, a un regard bienveillant sur chaque personne qui lui fait confiance. Sur chaque personne qui lui fait confiance. Même dans des moments difficile, même dans des moments de solitude, même dans des moments où on peut se sentir seul au monde, comme c'était le cas de David, il a goûté que son Dieu ne l'avait pas abandonné. Amen. Si nous sommes là le 15 janvier 2023, si nous avons passé le cap de 2022, c'est une preuve que l'Éternel est bien avec nous, les frères et les sœurs. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire dans ce psaume 34, « Qui veut connaître le bonheur ?» Il dit aux jeunes gens, « Venez, je vais vous instruire sur ce que c'est que le bonheur, n'est-ce pas ?» Et il dit, « Le bonheur, justement, c'est de plonger les regards dans la parole de Dieu. » Et j'avais terminé cet encouragement avec une lecture de l'épître, la première épître de Pierre, dans le deuxième chapitre, où Pierre pouvait dire, l'apôtre Pierre pouvait dire, « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse. » L'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. L'apôtre Pierre reprend le psaume 34 dans cet épître. Puisque vous avez goûté combien l'Éternel est bon, continuez de vous nourrir de sa parole, continuez de lui faire confiance. Et j'aimerais ce matin que nous méditions un autre texte de l'apôtre Paul, un texte qui me semble être un encouragement ce début d'année, dans notre qualité de chrétien, en tout cas dans notre qualité de ceux qui sont sensibles à la présence de Dieu dans le monde et qui ont bien compris que notre vie terrestre a sa source en Dieu. Et comme quelques-uns l'ont dit dans leur prière, que nous puissions réaliser que sans Dieu. Parfois, c'est une expression que nous sortons, mais il me semble qu'avec moi-même, on n'est pas toujours convaincu. Parfois, on est convaincu qu'on peut faire des choses sans Dieu. Il faut réaliser que tout ce que nous faisons, que nous soyons croyants ou pas, la grâce de Dieu est toujours active dans ces choses-là. L'apôtre Paul, dans la mission que Dieu lui a donnée, l'une des premières communautés qu'il a rencontrées dans ce qu'on appelle à l'époque l'Europe, c'était la ville de Philippe. Et c'est dans cette ville qu'il a commencé le champ missionnaire. C'est là qu'il a passé du temps à annoncer l'évangile avec un contact qui n'était pas ordinaire, puisque d'habitude, quand il se déplaçait en tant que missionnaire, il allait d'abord à la synagogue. Là, il n'y avait pas de synagogue. Il a rencontré un groupe de femmes dont il avait eu information qu'elles se réunissaient au bord d'un courant d'eau pour prier. C'était là qu'elles s'étaient donné rendez-vous hebdomadairement dans ce début du siècle, avec aussi une persécution qui était toujours un peu en visibilité. Mais c'était donné rendez-vous là. Et c'est là qu'on a la mention d'une certaine Lydie, vendeuse de pourpre. Et c'est elle qui, plus tard, lorsqu'il y aura ce contact avec l'apôtre Paul, va lui dire: mais moi, j'ouvre ma maison pour que désormais, on puisse faire le culte chez moi. Et c'est comme ça que cette église a démarré à Philippe. On l'appelle avec beaucoup d'émotion, on l'appelle l'épître à la joie. Parce qu'il semble que cette épître, quand on la lit, elle est parsemée de la sémantique de la joie. L'occurrence du mot et même des expressions de la joie sont partout dans cette épître. 16 fois le mot joie sous forme de verbe ou de nom, tout en sachant qu'on n'a que 4 chapitres. C'est beaucoup en termes de contenu. Et ça nous montre qu'il a vraiment écrit cette épître avec cette thématique-là. Et pourtant, il écrit alors qu'il est en prison. Elle fait partie de celles qu'on appelle les épîtres de la captivité, les épîtres que l'apôtre Paul, poussé par Dieu, a écrit pendant qu'il était emprisonné à cause du fait qu'il annonçait l'évangile de Jésus-Christ. Il dit: je ne suis pas en prison parce que je suis un voleur. Non. Il dit: en réalité, je ne commets aucun crime, civil ni pénal. Je suis en prison parce que je défends la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est dans cette situation où il le dit même dans la lettre, enchaîné dans ma cellule, que je vous écris cette épître. Mais elle est pleine de joie. Et on le verra tout à l'heure. Il écrit à cette église qui nous parle aujourd'hui, pour leur dire ce que nous allons voir dans ce message. Moi, j'ai eu à cœur cet épître, et je le dirai tout à l'heure après la lecture. Je vous dirai pourquoi. Je vous invite à lire le texte. Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 11, et on sautera le verset 12 au 26, et on lira le verset 27 à 30. Comme je l'ai dit, le 1er janvier, c'est une version synthétique que vous avez là. Donc, c'est pas une version qui est uniquement dans une ou l'autre version. J'explique les versions bibliques. Les versions bibliques ne sont pas, la Bible n'a pas plusieurs. Il n'y a pas plusieurs Bibles. Il y a une seule. Mais les versions sont là pour s'adresser à des publics différents. En tant que locuteur. Et moi, ce que j'aime faire dans la, c'est de lire toutes ces versions et de voir comment elles me parlent et comment je peux le communiquer à ceux avec qui je veux partager cette parole. Philippiens chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, vous donne la grâce et la paix. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous et en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et telle est ma conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente la poursuivra jusqu'en son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est bien juste pour moi d'être ainsi disposé envers vous tous. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement, en pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où votre vie sera remplie d'actions justes, chargée d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous pour la gloire et la louange de Dieu. Verset 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, j'apprenne que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Amen. C'est une épître à la joie et je peux confirmer qu'elle communique quelque chose qui vous porte dans la joie. Je peux le confirmer. À la fin de cette prédication, je vais articuler cette épître, en tout cas ce chapitre, dans des thèmes qui concernent cette église de Créteil. Mais je pense sincèrement que des fois, on cherche des choses très, comment dire, dans certains de nos milieux chrétiens, on est souvent en recherche d'une certaine puissance, d'une certaine expérience mystique, mystérieuse, mystique, spirituelle. On veut vivre quelque chose d'intense, de fort, de spécial. Peut-être que c'est juste de chercher ces choses-là. J'en sais rien. Mais ce que je comprends, c'est que l'un des plus grands miracles que Dieu fait dans la vie d'un être humain, c'est de le rencontrer et de le transformer en un projet d'amour vivant. Pour la gloire de son nom. Un projet d'amour vivant pour la gloire de son nom. Le monde est traversé par tant de conflits, de guerres, de haines. Les semaines passent, elles ne se ressemblent pas. Il y a de belles choses et il y en a de tristes. L'actualité nous rend des fois impuissants. On entend par-ci que des villes sont dévastées par la guerre. Et nous, les Occidentaux, nous qui vivons ici, nous sommes conscients de cette réalité parce que nous sommes à moins de 3000 kilomètres d'une guerre et des gens ont tout perdu. Et la guerre continue en Ukraine. Il y a à peine 12 mois, sinon 8 mois, ces Ukrainiens ne se doutaient pas qu'ils seraient hors de chez eux et que leur vie serait ruine. Il y a bien longtemps que dans certaines parties du monde, malheureusement, c'est devenu le quotidien, comme dans l'est de la République du Congo. Je regardais encore une émission où des jeunes gens d'un quartier populaire, des jeunes gens qui sont presque sans moyens, sans ressources, n'ont que pour recours la drogue, et cette drogue les pousse à la violence, alors qu'ils sont déjà dans un quartier bien pauvre. Le tableau n'est pas meilleur aux États-Unis, dit-on, le pays du rêve américain. Et pourtant, il y a des endroits, pour ceux qui y vont, disent, oula, c'est pas les États-Unis dont on m'a parlé, où la misère est visible, elle est là, où des populations n'ont pas de sécurité sociale, où la santé, si vous n'avez pas les moyens, bah vous êtes livré à vous-même. Faut pas croire. C'est pour cela qu'il faut nous réjouir des conditions dans lesquelles Dieu nous place. Je suis pas quelqu'un de chauviniste, mais j'ai envie de dire, on dit français toujours à l'heure. Et quand les gens ils sortent de la France, ils se rendent compte que quelque part, ils ont une grâce que d'autres populations n'ont pas. Amnesty International France dresse ce tableau sombre. Les civils sont les premières victimes des conflits. Il appelle les gouvernants à protéger ces civils-là. Les conflits armés continuent d'apporter mort et souffrance à grande échelle et d'obliger des millions de personnes à quitter leur foyer. Leurs populations civiles en sont les premières victimes. Exécutions, tortures, viols et autres formes de violences sexuelles. Déplacements forcés, leur protection est mise à mal. Pourtant, les parties en conflit, États, groupes armés, autres acteurs ont, en vertu du droit international humanitaire, l'obligation de les protéger. L'obligation de protéger leur population est pourtant. Les viols et autres formes de violences sexuelles, esclavage sexuel, grossesse forcée, stérilisation forcée, etc. sont également perpétrés contre les civils dans les contextes de conflits armés. Les femmes et les filles en sont souvent les principales cibles. Mais les hommes et les garçons ne sont pas épargnés. En 2021, une dizaine de femmes et de jeunes filles, parfois âgées de 14 ans, ont été violées dans une certaine partie du monde que je tairai. Et les enfants ont été enrôlés de force au sein de forces combattantes. Lors des affrontements, les infrastructures civiles sont aussi touchées. Les hôpitaux ou les bâtiments publics sont souvent ciblés et détruits, y compris lors des bombardements, plongeant durablement des populations entières dans le chaos. Comment un être humain peut dire « Je vais détruire un pays et le ramener au 18e siècle ?» Comment un être humain peut dire ça ? Je vais détruire un pays et l'état dans lequel je vais le laisser, ça sera un état qui ressemble au 18e siècle. Voilà l'état de notre monde. Voilà l'état de notre cœur. Vous savez, le prophète a dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Nous pensons à tort que nous sommes des gens bons. Les guerres, les conflits nous montrent que c'est faux. Que là même où on pense que la postmodernité nous a apporté une intelligence, une civilisation au sommet de la chaîne alimentaire, nous sommes capables du pire. 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 Combien alors cette lettre aux Philippiens peut retentir dans nos oreilles aujourd'hui? L'apôtre Paul décrit, en tout cas, dans ces versets, quelque chose qui doit nous interpeller, nous croyants, nous chrétiens, à être différents. Des fois, nous pensons que nous le sommes, mais en réalité, évaluons-nous pour le savoir, pour le confirmer et pour le vivre. Il dit, dans les deux premiers versets, vas-y s'il te plaît, il s'adresse aux chrétiens. Il dit que les chrétiens sont des saints. Ma sœur Julie, tu es une sainte. Mon frère Dylan, tu es un saint. Ça nous fait peur, hein, cet attribut qui est ce que nous sommes. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas dans un système religieux particulier où pour être saint, il faut attendre ce qu'on appelle un droit canon un peu compliqué et que tu es saint quand tu es mort longtemps et qu'on te béatifie plusieurs siècles plus tard. Parce qu'il y a tout un rituel, toute une vérification pour vérifier vraiment que c'est une personne très sainte. Peut-être qu'ils ont raison de faire ça, j'en sais rien, je ne juge pas, mais je trouve juste que là, l'apôtre Paul, parlant aux Philippiens, il dit à des chrétiens ordinaires, des chrétiens comme vous et moi, il dit à tous les chrétiens de Philippe, ceux qui sont saints. Ceux qui sont saints, l'expression saint, ceux qui sont mis à part pour Dieu. Ceux et qui, de par leur union avec Jésus-Christ, sont invités à être ce qu'ils sont. Ils sont des saints. Ils sont des saints. Nous sommes des saints. Nous sommes mis à part pour Dieu. Il s'adresse à toute cette église de Philippe et il s'adresse à une catégorie spéciale au cœur de cette église de Philippe. Il précise aussi les dirigeants et les diacres. Comme pour dire que dans cette communauté, il y a une certaine organisation et qu'il y a quelques-uns qui ont cette charge-là de veiller sur leurs frères et sur leurs sœurs. Et lui, il en fait partie parce qu'il a été pasteur de cette église de Philippe. Il s'adresse donc à ses collègues qui dirige cette église et les diacres qui en ont cette responsabilité. Les anciens et les évêques sont responsables de conduire, de prendre soin de l'ensemble de l'église. Et les diacres sont ceux qui sont chargés de toutes les autres activités au cœur de cette communauté pour qu'elle puisse être la communauté mise à part pour Dieu, la communauté des saints. Jésus précise que nous sommes mis à part pas pour nous retirer du monde. Et il a fait cette prière. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde parce que c'est une évidence, ils sont dans le monde. Je te demande juste qu'ils soient ce qu'ils sont dans le monde, qu'ils soient des saints dans le monde et que toi, tu les gardes pour qu'ils continuent d'être des saints et des saintes dans ce monde. Attirant ainsi la lumière de Dieu pour que cette lumière puisse refléter sur ceux et celles qu'ils côtoient. Et Paul termine cette salutation dans le verset 2 en disant « Ce que je demande à Dieu, que notre Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. » Il semble que c'est une formule habituelle dans les lettres de l'époque, comme nous pouvons dire quand nous écrivons à la fin d'un courrier, nous les chrétiens en tout cas, que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Mais cette articulation a un sens. Il parle de paix, mais avant la paix, il parle de la grâce de Dieu. La grâce, c'est cette faveur que nous ne méritons pas. Il dit, je prie que même si vous ne le méritiez pas, que Dieu vous fasse cette faveur. Et que vous en soyez conscient. La vie est une faveur. La vie est une faveur. La vie est une faveur. C'est vrai que parfois, les conditions dans lesquelles nous vivons peut nous dire que ce n'est pas une faveur. Mais la vie est une faveur, bien aimée. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais il me semble que c'est une anecdote. Une personne misérable qui était vraiment dans le dénuement total et qui avait décidé d'en finir avec ses jours. et qui, comme souvent, avait décidé de se pendre pour mettre fin à ses jours, et qui du coup avait enlevé ce haillon qui lui servait de manteau, il l'avait posé au sol, était monté sur cette petite escabeau pour mettre la corde dans son cou. Quand il entend une petite voix par derrière lui qui dit « Ah, à qui ce beau manteau ?»« À qui ce beau manteau ?» Et lui, du haut de son petit escabeau, « Beau manteau ?» Mais c'est un haillon. Et là, il a tout simplement enlevé cette corde à son cou parce qu'il s'est dit « S'il y a quelqu'un qui pense que mon haillon est un beau manteau, c'est que je suis quand même un peu mieux que quelques-uns et que la vie vaut la peine d'être vécue. » On croit qu'on est toujours le plus misérable. Que la grâce, la faveur imméritée de Dieu soit votre soutien. Et que la paix que Dieu donne, qui n'est pas liée aux circonstances ni aux événements, qu'elle garde vos cœurs sereins dans la confiance à Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul demandait pour les Philippiens. Il le demande aujourd'hui pour nous. Dans les versets qui vont suivre, vas-y, versets 3 à 7. Paul est touché par l'attitude des chrétiens de Philippe. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois. Et c'est pas une fois. Il dit à l'occasion quand je me souviens de vous. Non. Chaque fois que je me souviens de vous, que je pense à vous, je suis reconnaissant à Dieu. Je prie pour vous tous en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Paul a été touché par l'attitude de ses chrétiens. Un apôtre comme Paul, quelqu'un qui a vécu des expériences incroyables avec Dieu, comment peut-il être ému par une si petite communauté? Parce que justement, il a trouvé des frères et des sœurs dans cette communauté. Leur cœur était réceptif. Ils étaient très tôt bouleversés par cet évangile, cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée. Eux qui croyaient que leur vie était dans un bon déroulé, que leur destination était la meilleure, du coup ils se rendent compte qu'ils ont une grâce inestimable puisque Dieu l'a envoyé son serviteur qui leur a présenté l'évangile de Jésus-Christ. Et ils se sont dit, waouh, nous croyons que nous étions dans le vrai, mais en fait, nous allions directement dans le mur. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné cet éclairage. Il nous a annoncé cette bonne nouvelle. Il a même pris son serviteur, comme Paul, pour nous l'envoyer. Vous savez, Paul a eu cette visitation, alors qu'il avait un itinéraire bien précis. Et la veille de cette visite à Philippe, il a vu dans son songe un Macédonien qui lui a dit, viens nous visiter. Et il a pris ça pour une révélation. Il a dit, ok, on met le plan initial en parenthèse, on fait ce détour et on va voir ce que Dieu fait. Et c'est là que les Philippiens ont été exposés à l'évangile. Leur témoignage actif et vivant a rempli le cœur de Paul de joie et l'a poussé à remercier Dieu. C'est des gens simples, c'est des gens ordinaires, mais dont la vie a été tellement impactée par la bonne nouvelle qu'ils vivent quelque chose d'ordinaire, mais d'incroyable. Vous savez, le chrétien, c'est quelqu'un d'ordinaire, mais quelqu'un a dit, c'est un homme ordinaire en qui le Dieu extraordinaire a investi son amour. Nous sommes des gens ordinaires, mais le Dieu extraordinaire a pensé qu'il était juste d'investir sur chacun de vous, sur chacun de nous. Incroyable. Quand Paul se souvient de cette communauté, il est rempli de joie parce que c'est une communauté, en tout cas à cette époque-là, dont le témoignage d'amour dépassait la ville de Philippe. ils l'ont manifesté. Quand ils ont appris que Paul était en prison, ils ont dit, mais c'est notre frère. On ne peut pas tous y rendre. On va envoyer quelqu'un, Épaphrodite, pour aller le visiter, pour prendre de ses nouvelles, mais aussi pour le soutenir. Parce que quelqu'un qui est en prison, bah, il n'a plus de moyens, tout est fermé. Ils ont envoyé Épaphrodite pour que Épaphrodite reste avec Paul tout le temps que Paul aurait besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Et ça a touché l'apôtre Paul. Ça l'a touché au point où Dieu lui met à cœur d'écrire cette lettre aux Philippiens au moment où il va leur renvoyer Épaphrodite. Et l'apôtre Paul vit quelque chose de très fort au moment où il écrit cette lettre, parce qu'à un moment donné, Épaphrodite tombe malade et Épaphrodite va presque agoniser. Et l'apôtre Paul dit, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, que ce frère ne décède pas. Garde-le pour que les frères de Philippe n'aient pas tristesse sur tristesse, parce que je suis déjà emprisonné, ils sont déjà tristes de mon sort. Si l'émissaire qui m'envoie décède ici, quelle tristesse. Et il dit, Dieu a eu pitié de moi, et Dieu a gardé Épaphrodite, et je m'empresse de vous le ramener. Maintenant qu'il est guéri, prenez soin de lui, car c'est un serviteur de Dieu. Il a pris soin de moi. Il a rempli la mission pour laquelle vous l'avez envoyé. J'ai été reconnaissant dans cette captivité d'avoir quelqu'un à mes côtés, comme Épaphrodite. Alléluia. Et Paul dit, celui qui a fait cette œuvre puissante d'amour en vous, je ne doute à aucun moment, il sera capable non seulement d'affermir cette œuvre d'amour en vous, mais de faire en sorte que vous persévérez des hommes et des femmes pleins d'amour jusqu'à l'avènement du jour de Christ. C'est là notre défi, bien-aimé. C'est là notre défi, parce que souvenons-nous que d'une autre église, Jésus, à l'église d'Éphèse, dans les livres d'Apocalypse, comme nous l'a rappelé Émile lors de du jeûne de mercredi, à l'église d'Éphèse, que dit le Seigneur à cette église dans l'Apocalypse? Il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as fait quoi? Tu as perdu ton premier amour. C'est là le défi de notre vie chrétienne. Persévérer, garder l'objectif, être toujours des hommes et des femmes remplis du projet d'amour de Dieu. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas sûr, c'est pas certain. Le chemin est long, pas rectiligne, mais important, mais important. Et c'est le sens de plusieurs prières ce matin. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mon frère et ma sœur, qui vit en toi? Qui vit en nous? Comment? Qui vit en nous? L'Esprit Saint. Waouh! L'Esprit Saint. Des fois, je me demande si j'ai conscience que l'Esprit Saint vit en moi. Quand je vois des fois des attitudes ou des pensées ou des façons de me comporter, je dis là, Serge, ça va pas là. Mais c'est vrai qu'on est des humains et que notre itinéraire n'est pas non plus rectiligne, mais pourtant quelqu'un dit, notre itinéraire en fait c'est des spirales, mais des spirales ascendantes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être ballottées, difficiles, mais elles doivent monter. Ballottées, difficiles, mais bénies, elles continuent de monter. Nous sommes des spirales ascendantes. Et dans cette ascension, le Christ est au cœur de nos vies. Il dit quoi dans l'Apocalypse? Je tape à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je ferai quoi? Je viendrai. Et je ferai quoi? Je vais souper avec toi. Je vais me poser avec toi. Je vais communier avec toi. L'homme peut abandonner l'ouvrage qu'il a entrepris. On le voit bien. Il y a de belles constructions à un moment donné. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté à un moment donné. Il y a des projets qui n'ont pas eu le financement d'après. Il y a des événements qui sont arrêtés net alors qu'ils pouvaient continuer. Et l'homme peut abandonner l'ouvrage. Mais Dieu, non. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis convaincu que celui qui a commencé cette œuvre en vous la mènera à son achèvement. C'est une certitude. Nous sommes le projet d'amour de Dieu, bien-aimé. C'est une certitude. C'est une certitude. Ta vie chrétienne est une vie bénie, remplie de l'amour de Dieu. C'est une certitude. Ta vie chrétienne, ma vie chrétienne, doit manifester l'amour de Dieu. C'est une certitude. C'est une certitude. Dans un monde en mal d'amour, nous ne sommes pas en manque d'amour, puisque le Dieu d'amour a investi son amour en nous. Faut pas l'oublier. Et que le Seigneur nous donne de nous défier à ne pas l'oublier. Seigneur, ma prière, je veux me défier à ne pas oublier que je suis un projet vivant d'amour pour toi et pour mon prochain. Verset 9 au verset 11. Paul fait cette prière. Il demande à Dieu que l'amour des Philippiens, de chaque Philippien, grandisse de plus en plus. Si tu avais une unité de mesure et que tu pouvais mesurer la quantité et la qualité d'amour de Dieu qui est dans ta vie, elle serait à quel niveau? Elle serait à quel niveau? Si j'avais cet instrument dans mes mains. Vous savez, il y a des outils modernes maintenant, de plus en plus. J'ai eu un souci de batterie de ma voiture. Et donc, la voiture, le lendemain matin, rien du tout. En fait, c'est la batterie qui était HS. Et puis, j'appelle un frère qui vient m'aider, qui me dépanne. Vous savez, on met les coches. Ça lui donne un peu comme un électrochoc. Ah, la voiture est née de nouveau. Allez, elle repart. Mais vous savez, quand c'est comme ça, il faut aller tester la batterie. Et donc, ils ont un instrument qu'ils mettent sur la batterie et ça vous dit votre batterie est chargée à combien de pourcent. Et là, l'instrument a dit, ah, monsieur, ça va encore. 67%, ça va le faire. Bon, ça veut dire que cette batterie, elle n'est plus à 100%. Elle est à 67%. Donc, je dois bien compter que dans quelques mois, je devrais penser à la recharger. N'est-ce pas? Ou à la changer. Ou à la changer. Téléphone, les barres de téléphone. Quand elle est au rouge, cette barre, ça va encore, une petite barre rouge, on se dit, ouais, j'ai le temps de rentrer, de la brancher. Et il y en a qui ne laissent même pas arriver à 3 barres. Hein. Dès qu'il y a 3 barres, on branche, parce qu'il faut que ce soit toujours à 100%. Donc il y a des téléphones qui sont toujours branchés, parce qu'il faut qu'ils soient toujours à 100%. Et le drame, c'est que des fois, on sort et puis on oublie le téléphone. Ouh, j'ai oublié l'essentiel de ma vie. Il faut que je retourne la chercher. Sinon, ça, la journée va être pourrie. Et si j'ai oublié de la brancher la nuit, cet instrument-là, cet appareil-là, oh là 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 là, et que je me suis réveillé alors que je dois partir, le stress. En plus, je dois l'utiliser comme mon GPS. Et que je n'ai pas le câble de chargeur dans la voiture. Quelle histoire! Quelle journée qui commence bien. Vous voyez, tous ces instruments, on sait qu'ils ne sont pas chargés. Ça ne va pas le faire. Et nous, là, on ne prend pas le temps des fois de mesurer quelle est la quantité, quelle est la qualité d'amour de Dieu qui est encore en nous. Des fois, on a besoin de recharger cet amour de Dieu en nous, bien-aimés. Des fois, on a besoin d'être rechargé à nouveau. D'être rechargé à nouveau. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas toujours facile. Donc, voilà. Déchargé. Des fois, on est vidé. Des fois, on est vidé. Oh, vidé. Heureusement, c'est un chargeur universel. Toujours disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, toujours disponible pour nous recharger. Il n'attend que ça pour nous recharger. Et en plus, le chargeur, il n'est pas hors de nous, il est en nous. Ce n'est même pas un objet, c'est une personne. C'est l'Esprit de Dieu. Waouh, quel privilège. La joie d'être des chrétiens. Celui qui recharge la vie, vit en vous, vit en moi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je prie et je demande à mon Dieu que votre amour grandisse de plus en plus et qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. À avoir une analyse fine, une analyse selon les critères de sa volonté pour que vous puissiez discerner ce qu'il faut retenir ou ce qu'il ne faut pas retenir. Car le chemin de notre vie, on dit un adulte, c'est celui qui est appelé à faire des choix jusqu'à sa mort. Un enfant, il ne fait pas des choix. C'est ceux qui sont responsables de lui qui font les choix pour lui parce qu'il n'est pas encore en capacité de bien décider. Même si des fois, les petits ados disent « Papa, je sais tout. » Tu dis « Voilà, là, je sais tout. » Énorme, énorme. Ils savent tout, les enfants. Et les parents, ils ont oublié qu'ils étaient enfants aussi, qu'ils ont dit à leurs parents « Maman, je sais tout. » Et quand c'est le tour, l'enfant te dit ça, tu dis « Attends un peu, toi. » Mais souvent, il faut faire un rappel mémoire. Un rappel mémoire. Bien-aimé, bien-aimé, pour que vous discerniez ce qui convient le mieux, c'est la parole de Dieu qui vous donne cette ressource et qui vous permet de discerner au fur et à mesure des choix, des décisions, des convictions. C'est cette parole-là qui vous aide à faire ce choix. Elle est pétrie de l'amour de Dieu. Il dit, pourquoi je prie comme ça? Parce que j'aimerais tellement, de la façon dont je vous vois, la façon dont votre amour est manifesté, ah, j'aimerais tellement que ça dure, 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 jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Chrétien pour un jour, chrétien pour toujours. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours, bien-aimé. Pour toujours. Pour toujours. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Je fais quelque chose. Ils vont m'excuser si je le fais. Je vais demander à Émile et à Monique de se tenir debout. S'il vous plaît. Je vais demander à Rachel aussi de se tenir debout. Je vais demander à Georges et José de se tenir debout. Demandez à maman Charlotte de se tenir debout. Je n'ai pas vu Gertrude ce matin. Elle n'est pas là. Regardez ses aînés. Vous êtes dans la foi depuis 2 ans, c'est ça? Depuis l'âge de 14 ans. Et elle va avoir, on ne dit pas l'âge d'une femme. Elle a eu. Ça fait à peu près, sinon un peu plus, 66 ans qu'elle est dans la foi. 66 ans qu'elle est dans la foi. Ça fait 66 ans qu'elle est dans la foi. Émile et Monique, ça fait 3 ans? 40 ans qu'ils sont dans la foi. Wow. Il y en a qui n'ont même pas 40 ans dans cette salle. Georges et José, ça fait 4 ans? Ça fait longtemps. Maman Charlotte, Tu t'es converti hier. Tu es devenu chrétienne hier ou ça fait longtemps, longtemps? Ah! Voilà. Asseyez-vous, chers aînés. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On peut être chrétien pendant longtemps, 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 longtemps. Amen. Ne croyez pas qu'ils n'ont pas été jeunes. Ne croyez pas qu'ils n'ont pas eu des hauts et des bas. Ne croyez pas que la vie chrétienne a été vasée tous les jours. Mais ils ont compris une chose. C'est qu'ils devaient laisser Dieu faire grandir en eux l'amour de plus en plus, de plus en plus. Ce ne sont pas les meilleurs des chrétiens. Qui de nous est le meilleur des chrétiens, du reste? Mais ils persévèrent dans la foi. Ils gardent l'objectif, fixant les regards vers Christ, ils continuent d'avancer en gardant la foi comme leur bouclier, comme leur destination, comme leur boussole, comme cette ancre solide qui leur permet de rester en Christ, comme cette voile dans laquelle le vent peut continuer de les pousser vers l'objectif de leur vie. Pour qu'au jour de Christ, ils soient au rendez-vous des bienheureux. Amen. Et c'est notre itinéraire à tous, bien-aimés. C'est notre itinéraire à tous. Et terminons avec cette dernière section. 27 à 30, c'est une conclusion. Je pourrais apprendre que vous tenez bon. Que vous tenez bon. Bien-aimés, nous avons un défi. Nous devons être des saints, des chrétiens et des chrétiennes, des hommes et des femmes qui manifestons quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement, l'amour de Dieu. Voilà notre projet de vie. Voilà notre projet de vie. Voilà notre projet de vie. Je vous passe les détails de cette dernière slide. Je vais juste lire cette dernière prière que j'ai formulée en m'inspirant de ce chapitre, en osant mettre le conseil de l'église de Créteil à la place de Paul et Timothée. Le pasteur Serge et le conseil de Créteil, serviteur de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent dans la communauté de l'EPEC. L'EPEC, c'est l'église protestante évangélique de Créteil. Ainsi que tous les responsables de comité et ceux qui ont un engagement bien spécifique dans l'église de Créteil. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Nous exprimons, nous, conseil de Créteil, à notre Dieu, notre reconnaissance chaque fois que nous pensons à vous, chrétiens de cette communauté. Nous prions pour vous, tous et toutes, en toute et en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que nous voulons le faire. L'apôtre Paul dit, je le fais avec joie. Nous, on veut continuer de le faire avec joie. Oui, nous remercions Dieu, car depuis le début de notre ministère, ici jusqu'à maintenant, par le soutien que vous nous avez apporté, à moi spécifiquement, mais à tout le conseil, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et nous voulons vraiment rester fermement persuadés que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont nos sentiments envers vous tous. Et il est juste, là mon cœur est en train de battre à la chamade, tels sont nos sentiments envers vous tous. Et il est juste que nous les éprouvons. En effet, vous occupez une place particulière dans notre cœur. Car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu accorde à son Église. Aussi bien quand les défis de la gestion de l'Église sont pressants et parfois complexes que lorsque l'œuvre de la prédication de la parole de Dieu, la bonne nouvelle se déroule avec harmonie et les enseignements pour affermir le peuple de Dieu s'établit fermement. Oui, Dieu nous en est témoin que nous vous aimons et prions pour arriver à vous affectionner de l'affection que vous porte Jésus-Christ. On n'en est pas encore comme l'apôtre Paul, mais on fait des efforts. On vous porte dans nos cœurs en tant que conseil. Et voici ce que nous demandons dans nos prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, aura produit en nous, à la gloire et à la louange de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Merci Seigneur. Amen.